Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Ladies and gentlemen, Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis.
Le chef de file du mouvement noir non violent aux États-Unis a donc été assassiné. Il était au balcon de sa chambre dans un hôtel de Memphis, au Tennessee. Une seule balle l'a abattu, tirée par une carabine à lunettes.
Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings.
Ce sera l'un des derniers bienfaits de Martin Luther King, avoir obligé les Américains à s'interroger sur l'avenir de leur propre société.
Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that. Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow men. He was dreaming of the day peace would come to Earth to stay, and he spread this message all across the land.
Le 4 avril 1968, le pasteur Martin Luther King est assassiné. Il avait 39 ans. Cet événement tragique pour la communauté noire de l'époque suscitera de vives réactions. La tension est telle que les partisans de la non-violence s'interrogent sur le bien fondé de leur mouvement. L'Amérique noire est prête au combat. Et les plus fervents activistes prônent désormais le Black Power. Dans ce deuxième volet de notre série d'émissions consacrée au cinquantenaire du bouillonnement social et racial aux États-Unis, nous allons entendre la colère, la rage et le désespoir s'exprimer dans les mots et les notes des témoins et acteurs de cette époque troublée. Il y avait les pleurs et les poings, il y avait la détresse et l'engagement, il y avait le blues et la soul music. En 1968, le slogan « I'm black and I'm proud »,« Je suis noir et j'en suis fier » résonne comme un cri de ralliement d'une population trop longtemps bâillonnée. Les discours se radicalisent et la jeunesse africaine-américaine semble vouloir reprendre le contrôle d'un mouvement de contestation qui s'essouffle. Parmi tous ces jeunes gens bien décidés à faire bouger la société, il y avait Calvin Taylor. Ce brillant étudiant avait alors 20 ans. Et n'envisageait pas de poursuivre sans broncher la lutte devenue apathique initiée par ses aînés. Il prit donc la décision de participer à un nouveau mouvement, les Invaders, à l'image des Black Panthers.
Je ne sais pas comment vous pourriez me présenter. Je me contente de dire que je suis un citoyen ordinaire. Il est vrai que par le passé, j'ai été identifié comme militant. Je pense que nous sommes tous à un moment de notre vie militants. Finalement, vous pouvez me présenter comme bon vous semble. En tout cas, on nous appelait les Invaders. Nous n'étions que de jeunes étudiants. Il y avait parmi nous des gens comme Charles Cabbage, John B. Smith, Kobe Smith et quelques autres, nous n'étions que des idéalistes qui voyaient le monde évoluer, qui voyaient les guerres se multiplier. Par conséquent, lorsque nous rentrions à la maison chaque soir, nous avions conscience que la société américaine traversait une période cruciale dans l'évolution des relations entre blancs et noirs. Memphis nous paraissait l'endroit idéal pour faire évoluer les consciences, même si nous avions étudié dans différentes universités à travers le sud des États-Unis. Nous nous sommes donc tous retrouvés ici, à Memphis. Nous vivions tous dans le même quartier. Nous avons alors décidé de tenter quelque chose car nous avions l'impression que nos aînés ne nous comprenaient pas. Nous n'étions que des étudiants, nous n'avions pas de métier. Face à nous, il y avait des salariés, des hommes d'église, des enseignants, des éducateurs, des facteurs. Tous ces gens avaient des familles à nourrir. Certains avaient des enfants. Ils n'avaient donc pas les mêmes aspirations que nous. Ils ne voyaient pas les choses de la même manière. Nous nous disions que si nous adoptions un discours modéré comme ceux de nos aînés, il faudrait des années pour que la société évolue. L'égalité raciale n'était donc pas à portée de vue.
Get this matter of integration or racial equality or racial parity resolved.
Où étiez-vous le 4 avril 1968?
Oh, April 4th, 1968. I was at work. I was a newspaper.
Le 4 avril 1968, j'étais à la rédaction d'un journal local où je récoltais les dépêches qui tombaient sur les téléscripteurs. Habituellement, dès que nous entendions des sirènes de police dans la rue, nous savions que les téléscripteurs allaient commencer à crépiter. Mais ce jour-là, tout était calme. Pendant quelques minutes, nous n'avons eu aucune communication de la part des autorités. Bizarrement, nos téléscripteurs ne nous transmettaient aucune dépêche. C'est bien la première fois que toutes nos sources d'information étaient muettes. Cela voulait dire qu'un événement majeur était en train de se produire. Il se trouve que j'étais précisément juste à côté de l'un de nos téléscripteurs puisque j'étais là pour recueillir les dépêches. Au bout de quelques minutes, une seule dépêche est apparue. Elle annonçait la mort de Martin Luther King au moment même où les haut-parleurs de la police annonçaient le couvre-feu. Voilà comment j'ai appris cette terrible nouvelle. Ce fut un choc pour moi, car le petit groupe d'étudiants que nous représentions avait eu le privilège de rencontrer ce grand personnage la veille de son assassinat. Je me demandais comment ce meurtre pouvait être possible.
With Dr. King the day before, so it was like, how can this be?
Vous dites que vous l'avez rencontré la veille, ça veut dire que vous avez discuté avec lui?
Yeah, the day before we had met with him at the Holiday Inn, it was a hotel called the Holiday Inn.
Nous l'avions rencontré dans un hôtel de Memphis, l'Holiday Inn, et nous avons parlé de différents sujets ensemble. Nous l'avons notamment interpellé sur la place des jeunes dans le mouvement des droits civiques. Il faut que vous ayez à l'esprit le fait qu'en 1968, Memphis était paralysé par une grève des éboueurs. Il y avait donc des marches quotidiennes de contestation dans les rues. Ces manifestations étaient organisées par différentes organisations reconnues par les autorités. Malheureusement, elles ne prenaient pas en compte les aspirations des jeunes à l'époque. Les organisateurs de ces marches ne nous interdisaient pas de participer, mais ne cherchaient pas non plus à nous inclure dans le mouvement. En d'autres mots, nous préférions rester en marge et laisser tous ces gens marcher en silence. Quand, en mars 1968, l'une des premières manifestations non violentes des éboueurs a été dispersée par la police de manière plutôt radicale, la communauté des adultes s'en est prise à la jeunesse. Nous n'avons pas trop blâmé leur attitude à l'époque, car nous nous attendions à une telle réaction. Lorsque nous avons rencontré Martin Luther King, nous lui avons parlé de cette situation. Et il fut le premier surpris que les organisateurs des marches n'aient pas eu la présence d'esprit d'inviter officiellement les jeunes à participer. Par conséquent, le but de notre conversation avec Martin Luther King était de le convaincre de parler à ses troupes pour qu'elles nous acceptent réellement dans les manifestations.
To do this together.
Thank you very kindly, my friend. It's always good to have your closest friend and associate to say something good about you.
Nous n'avions pas vraiment le temps d'écouter de musique, même si la musique était le reflet des problèmes raciaux que rencontrait l'Amérique alors. Nous écoutions les artistes dont le répertoire nous paraissait important, les artistes qui avaient un message. On n'écoutait pas les hit parades, on préférait John Coltrane, des gens qui composaient de la vraie musique. Quand le label Stax a commencé à avoir du succès, tout le monde s'est tourné vers ces artistes de soul music. Et je ne vais pas cracher dans la soupe, j'appréciais également ce que ces musiciens proposaient. John Gary Williams, qui était l'un des premiers chanteurs du label Stax, faisait partie de notre mouvement, les Invaders. Malheureusement, il n'a jamais écrit de chansons qui auraient pu refléter notre idéologie. Il préférait chanter des chansons d'amour. Cela dit, la musique a été un élément très important durant notre jeunesse. On fumait et on se laissait porter par les notes de musique de nos artistes préférés. En général, vous tombez amoureux d'un artiste avant de tomber amoureux d'une fille.
Lorsque l'on prend le temps d'arpenter les rues de Memphis, le souvenir de Martin Luther King est presque palpable. Du Mason Temple, où il délivra son dernier discours, au Lorraine Motel, où il fut assassiné, en passant par le Claiborne Temple ou les studios Stax, les échos de ce printemps 1968 effroyable semblent résister à l'érosion du temps. Il suffit de pousser la porte d'un club ou d'un studio pour entendre la bande-son d'une époque ressurgir à travers les créations musicales d'aujourd'hui, même si les auteurs du répertoire originel ont définitivement disparu. La chanteuse Toni Green participait justement à l'enregistrement d'un album blues quand elle nous a accueillis chaleureusement pour évoquer son enfance au cœur de l'effervescence sociale, raciale et musicale de sa ville natale, Memphis.
Okay, so I don't do that last Who's the Revelator. I do it on the first part of it, but I don't do it.
Yes.
Okay, I got you. Okay. All right.
Toni Green, vous connaissez parfaitement cette ville, vous connaissez parfaitement son histoire et les musiciens. Quand on parle de Memphis en France, on imagine tout de suite deux personnages, Elvis et Martin Luther King. Mm-hmm. Est-ce que Memphis, ce n'est que ça ?
Non, Memphis est so much more, great deep history.
Non, Memphis est bien plus que cela. C'est une ville chargée d'histoire. Toutes les musiques que vous entendez à longueur de journée proviennent de cette ville. Le rock'n'roll, le gospel, le rhythm and blues sont issus de Memphis. Et n'oublions pas l'aspect politique de cette ville. Martin Luther King est évidemment un symbole de résistance. Mais il existait et il existe toujours des mouvements militants puissants, toujours prêts à refaire surface à Memphis. Cette force de revendication a inspiré la communauté noire dans le monde entier. Cela fait partie de notre ADN. Nous ne cessons de réaffirmer qui nous sommes. Nous sommes fiers de notre ville. On présente trop souvent le sud des États-Unis de manière caricaturale. Ce n'est pas une région aussi détestable que certains peuvent le dire. Pour moi, Memphis représente parfaitement le sud. Nashville représente le sud. Le Mississippi représente le sud. Disons que Memphis a l'avantage d'avoir touché le monde entier par sa musique soul, par la figure emblématique qu'était Martin Luther King. C'est un ensemble d'éléments divers, de personnalités contrastées, qui font la légende de cette ville.
Soul, Martin Luther King, gospel, everything. You know, it's just a pot of great things and great people.
Cette chanson des Staples Singers, We'll Get Over, parue en 1969, est évidemment une réponse à l'assassinat de Martin Luther King quelques mois plus tôt. L'heure est à la reconquête du pouvoir par la population noire. Tony Green n'était qu'une adolescente de 17 ans quand la fronde de la communauté africaine-américaine prenait de l'ampleur. Mais elle partageait cette rancœur tenace à l'égard des Blancs. Le 4 avril 1968, lorsqu'elle apprit la nouvelle du meurtre du pasteur King, elle devint instantanément une militante et prit la tête d'un mouvement de contestation dans son lycée.
We were rioting in school. We absolutely were furious.
Nous étions à l'école et nous étions furieux d'apprendre cette nouvelle. Nous avons protesté et nous avons refusé de retourner en classe. Nous étions bouleversés. Nous n'étions que des adolescents et nous n'avons cessé de pleurer. Nos professeurs essayaient de nous inciter à retourner en classe, mais c'était impossible. Nous étions dans une des rares écoles où blancs et noirs pouvaient étudier ensemble. Le directeur de l'école et ses assistants étaient des blancs. Et au-delà de la défiance que nous avions ce jour-là à leur égard, c'est une douleur profonde qui nous a fait réagir. Nous voulions qu'ils nous écoutent une bonne fois pour toutes. Finalement, le directeur de l'école est venu me voir et m'a dit « Tony, j'ai bien vu que tu étais à l'initiative de cette rébellion. Je veux que tu cesses cette agitation. Si tu le fais, je suis sûr que tes camarades suivront. » Je ne m'étais jamais considéré comme leader d'un mouvement. Je pensais seulement dire la vérité. J'ai évidemment refusé de cesser le combat. Évidemment, sa réaction ne se fit pas attendre. Si tu continues à t'entêter, je n'aurai pas d'autre choix que de t'exclure de l'école. Je lui ai répondu, eh bien, excluez-moi, je ne baisserai jamais les bras. Martin Luther King vient d'être assassiné et vous ne ressentez même pas la colère de vos élèves? À la fin de la journée, je l'ai recroisé. J'ai constaté qu'il avait les larmes aux yeux. Son assistante est venue me voir et m'a dit, il ne pouvait pas comprendre ce que vous ressentiez car il n'a pas vécu votre vie. Je lui ai répondu, vous avez parfaitement raison. Cette journée a été l'une des plus difficiles pour nous tous. Il y avait 350 élèves noirs, 90 élèves blancs dans cette école. Il fallait que nous nous dressions une bonne fois pour toutes contre les abus de pouvoir auxquels nous étions confrontés quotidiennement.
Donc, nous devions stand up finally, because we were really, really treacherously abused there at that school.
Brother, you will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised.
La disparition brutale et violente de Martin Luther King le 4 avril 1968 a plongé l'Amérique noire dans la consternation et l'aigreur. Bien au-delà de Memphis, un sentiment de revanche insurrectionnelle laissait présager le pire. Et en effet, de nombreuses villes furent la proie des flammes et des émeutes éclatèrent aux quatre coins du pays. C'est principalement dans le sud que le soulèvement fut le plus vif et le plus réprimé. Chuck Ross est professeur d'histoire africaine-américaine à l'université du Mississippi. Nous sommes allés le rencontrer sur le campus d'Oxford, Mississippi, où il tenait à nous parler de cette époque éminemment importante dans l'histoire américaine.
1968 has been characterized as maybe the most angry year in 20th century America, particularly for African Americans.
1968 peut être considéré comme l'année la plus revendicatrice de l'histoire américaine. L'idée qu'un homme non-violent puisse être assassiné de la sorte a provoqué une réaction épidermique. Ce n'est pas ainsi qu'une société fonctionne. Quand on s'attaque à un homme de paix, la stratégie du combat racial change. Sur ce campus de l'Université du Mississippi en 1968, les étudiants noirs ont créé un syndicat pour afficher leur africanité. Ils se sont mobilisés pour exiger la mise en place d'une vingtaine de mesures administratives égalitaires. Ils voulaient que la direction de l'université recrute des professeurs noirs. Ils voulaient que des cours sur l'histoire du peuple noir soient inscrits au programme, etc. Ce qui est rassurant, c'est que leurs demandes ont été acceptées au fil des années. Ces étudiants se sont sacrifiés pour améliorer le sort de leurs futurs camarades, évidemment. En 1968, la direction de l'université a d'abord botté en touche en prétextant un investissement financier trop élevé. Les étudiants ne se sont pas démontés, ils ont commencé à organiser des manifestations à l'intérieur du campus. Ils ont interrompu un concert qui se tenait dans l'université et le point levé, ils ont exigé d'être entendus. D'une certaine manière, ils faisaient allégeance au mouvement Black Power. Ils furent évidemment arrêtés par la police. Certains d'entre eux ont été exclus de l'université et ils ont dû trouver d'autres établissements pour continuer leurs études. Certains des leaders du mouvement étudiants sont devenus des figures importantes. Je pense notamment à Donald Cole, qui faisait partie des étudiants arrêtés par la police en 1968. Il fut envoyé en prison, exclu de l'université, mais il a fini par obtenir ses diplômes en revenant des années plus tard ici à l'Université du Mississippi. Aujourd'hui, il est le bras droit du chancelier responsable des affaires multiculturelles de l'État du Mississippi. Tout ça pour vous dire que la majorité des étudiants ayant combattu en 1968 sur ce campus ont eu une vie plutôt chaotique car ils ont été exclus du système éducatif pendant très longtemps et ont dû batailler pour finir leurs études et finalement obtenir leur diplôme, et souvent avec succès.
Degrees.
Oxford town, Oxford town, everybody's got their heads bowed down. Sun don't shine above the ground, ain't going down to Oxford town. Guns and clubs followed him down, all because his face was brown. Better get away from Oxford town. Oxford town around the bend, come to the door, he couldn't get in, all because of the color of his skin. What do you think about that, my friend? Yes, son, we got met with a tear gas bomb. I don't even know why we come, going back where we come from. Oxford town in the afternoon, everybody singing a sorrowful tune. Two men died neath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon.
Ces quelques vers de Bob Dylan mis en musique en 1963 sur l'album Free Willing évoquent la destinée d'un personnage singulier dans le combat des Noirs pour l'égalité raciale. Il s'appelait James Meredith. Le professeur Chuck Ross nous raconte la destinée de cet homme courageux, devenu l'un des symboles de la résistance au cœur des années 60 et peut-être l'un des pionniers du Black Power.
Il est assez difficile de vous décrire ce personnage qui reste une énigme à mes yeux. Il est né à Kosciuszko, dans le Mississippi. Son père était un agriculteur, il subvenait donc aux besoins de sa famille. Et ces gens-là n'étaient donc pas contraints de faire la récolte du coton comme nombre de Noirs dans le sud des États-Unis. James Meredith a donc grandi avec la fierté d'être issu d'une famille épargnée par la ségrégation raciale. Il a fait son service militaire dans l'armée de l'air américaine. Ça a renforcé sa détermination d'échapper au destin du noir américain moyen dans les années 60. Il a également pu rencontrer des Américains blancs en dehors du Mississippi et il a compris que tous les blancs n'étaient pas racistes. Le racisme était inculqué aux enfants dans le Sud dès leur plus jeune âge. Mais James Meredith a réalisé qu'il était possible de contrer cette dérive. L'armée lui a aussi donné le sentiment qu'il pouvait être l'égal de ses camarades. Quand il est revenu dans le Mississippi, il s'est inscrit à l'université d'Oxford. Là, il s'est fait des amis, des insoumis, tout comme lui. Et à partir de là, ils se sont entendus pour essayer de lutter contre la ségrégation dans le Mississippi. James Meredith s'est donc attaqué aux villes les plus racistes de cet État. Il a essayé de prouver que s'inscrire dans une université et obtenir des diplômes ne relevait pas d'un simple rêve. De plus, c'était un homme intelligent et déterminé. Il a donc utilisé les voies légales pour que son combat remonte jusqu'à la Cour suprême. Et finalement, il a pu s'inscrire à l'université. Certes, il y eut des émeutes, deux journalistes qui couvraient les échauffourées sont morts, mais il a pu entrer à l'université d'Oxford comme n'importe quel étudiant. Dès lors, l'histoire de cette université fut transformée à jamais.
And he subsequently changed the University of Mississippi forever.
Est-ce que la manifestation à laquelle il prit part en 1966 est un moment décisif dans le mouvement des droits civiques? Et si oui, pourquoi?
Yo, there's no doubt about that. The fact that
il n'y a pas de doute. Le fait qu'il ait acquis de la confiance et du courage après son inscription à l'université lui a donné des ailes. Il pensait qu'il pouvait relever tous les défis. Il pensait pouvoir obtenir n'importe quel diplôme et affronter ses opposants. Tout le monde lui disait qu'il pouvait se faire tuer à tout moment, mais il était convaincu que seule la peur paralysait ses contemporains. Il a donc commencé à organiser une marche contre la terreur et l'oppression. Malheureusement, lors de cette marche entre Memphis et Jackson, il fut atteint d'une balle tirée par un sniper blanc. Il fut donc grièvement blessé. Il faut se souvenir qu'en 1966, le mouvement des droits civiques est un tournant de son histoire. Certaines actions ont porté leurs fruits au niveau national. Des lois ont été votées qui ont permis aux Noirs de s'inscrire sur les listes électorales. Cependant, la grande majorité des Afro-Américains ne voit pas leur vie évoluer sur le terrain. Les écoles sont toujours réservées aux Blancs dans le Sud, même si un jugement de la Cour suprême impose aux établissements scolaires d'accueillir tous les élèves. À cette époque, la désillusion l'emporte sur la combativité. On commence à douter de Martin Luther King. La jeune génération notamment considère qu'il est préférable de se protéger individuellement plutôt que de suivre la voie non violente proposée par le pasteur King. Les jeunes ne supportent plus les exactions des autorités et les chiens policiers qui leur sautent à la gorge. Ils veulent se défendre. Après la tentative d'assassinat de James Meredith, Martin Luther King a voulu reprendre les choses en main. En arrivant à Oxford, il fait la connaissance de Stokely Carmichael et de cette nouvelle approche du combat racial, le Black Power. Voilà pourquoi je considère que 1966 est une étape majeure dans le mouvement des droits civiques. Je ne pense pas que James Meredith avait conscience de faire bouger les lignes. Je pense qu'il n'était qu'un marcheur parmi tant d'autres, mais d'une certaine manière, il a ouvert la voie à une lecture différente du mouvement des droits civiques. Vous aviez d'un côté les étudiants non violents, de l'autre les Black Panthers. Subitement, les stratégies changeaient et ces différentes options furent le principal enjeu social américain jusqu'au tournant des années 70.
Play itself out in America all the way through the late 1960s and early 1970s.
À l'aube des années 70, la lutte du peuple noir a changé de visage. Le mouvement non-violent semble vaciller alors que les partisans de la manière forte revendiquent le pouvoir noir dans la confrontation verbale et physique. Une décennie vient de passer, une page se tourne, laissant derrière elle des héros disparus, des désillusions, des symboles de résilience et une foultitude d'anonymes tombés pour avoir osé être noir dans une Amérique blanche. Ce sont tous ces gens, braves et téméraires, que nous évoquerons la semaine prochaine dans le troisième volet de notre série d'émissions spéciales commémorant le 50e anniversaire de la disparition de Martin Luther King. Cette collection de reportages a été produite avec le concours de Memphis Travel, Visit Mississippi, American Airlines et Equinoxial, sans qui nous n'aurions pu réaliser ces épopées transatlantiques. Merci à Nathalie Laporte pour la somptueuse réalisation et mes salutations à Loïc Bussière et Christophe Champin, les voix françaises et militantes de nos interlocuteurs américains. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
I just want to do God's will. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land.